Chapitre 10. Un homme en colère. Mardi 11 décembre, 5 jours avant le meurtre. Dans la maison des Ebesner à Cologny, une magnifique demeure en pierre blanche dominant le lac Léman, entourée d'un vaste parc recouvert de neige. Seule à la table du petit déjeuner dressée dans la cuisine, Anastasia, vêtue d'une robe de chambre, jouait avec un morceau de pain sans le manger, trop occupée à se remémorer les événements de la veille. Soirée merveilleuse qu'il avait conduite dans la suite de l'hôtel des Bergs qu'occupait Lev Levovitch. Il l'attendait, superbe dans son smoking. Une table dressée pour deux, couverte de mets raffinés, accompagnée d'un grand cru. Ils avaient dîné à la lumière des bougies, plus amoureux que jamais. Elle se sentait tellement vivante à ses côtés. Puis ils s'étaient jetés l'un sur l'autre et ils avaient fait l'amour avec passion. Mais voilà qu'aux environs de minuit, le téléphone de la chambre avait retenti. Anastasia avait été prise de panique. C'était certainement Macaire. Il l'avait fait suivre, il savait tout et il venait faire un scandale. Soulagement immédiat, ce n'était pas Macaire, mais le président de la République française, venu à Genève pour l'Assemblée générale des Nations unies. Le président, souffrant d'insomnie, avait envie de faire la conversation. Il souhaitait que Lev vienne le trouver à la mission de France auprès des Nations unies, installée dans une immense propriété de maître à Chambézy, où il résidait pendant son séjour. Lev l'avait d'abord poliment envoyé paître pour cause de rendez-vous galant, mais Anastasia avait eu mauvaise conscience et lui avait dit « le président de la République, tout de même ». Lev avait alors rappelé le grand commandeur des Français pour dire qu'il viendrait. Il s'était habillé et il l'avait emmené avec lui à bord de sa Ferrari noire, modèle unique. Il s'était retrouvé sous les ors d'un grand salon, en intimité, avec le président de la République qui les avait reçus en robe de chambre. Buvant du thé, fumant un cigare et bavardant comme avec des amis, le président en profitant pour demander quelques conseils à Lev sur son discours du lendemain aux Nations unies. À 2 heures du matin, Lev l'avait raccompagné chez elle. Il l'avait déposé devant la propriété, chemin de route, et, dans le secret de la nuit, l'avait embrassé encore une fois, long baiser amoureux, avant de la laisser partir. En passant le portail, elle avait connu un bref moment d'angoisse. Qu'allait dire Macaire, la voyant rentrer à une heure pareille? Il devait être mort d'inquiétude. Avait-il prévenu la police? Ou alors il se doutait de quelque chose et il l'attendait sournoisement dans le salon. Il exigerait des explications. Surtout, rester naturel. Elle dirait qu'elle était finalement sortie avec des amis, qu'elle avait pris un verre à l'hôtel des Bergs et qu'elle n'avait pas vu les heures passer, voilà. Elle avait bien le droit de s'amuser, non? Et puis, c'était lui qui l'avait laissée seule au restaurant. Mais en arrivant devant la maison, elle se rendit compte que la voiture de Macaire n'était pas là. Il n'était toujours pas rentré de son mystérieux rendez-vous. Où pouvait-il bien être? Elle s'était couchée rapidement, sans trop se poser de questions, soulagée de n'avoir pas de compte à rendre et surtout, bien heureuse des heures passées avec Lev. Elle sentait encore son corps contre le sien, ses doigts sur sa peau, le plaisir qu'il lui donnait. Refermant les yeux un instant, elle le revit sur elle, l'embrassant et lui murmurant « Encore un peu de jus d'orange, mesdames. » Ah non, zut. Ça, c'était Arma qui venait la déranger. « Encore un peu de jus d'orange, mesdames ?» demanda Arma à sa patronne en lui présentant un pichet rempli de jus fraîchement pressé. Anastasia se força à sourire à la dérangeuse. « Vous avez bonne mine ce matin, mesdames ?» lui dit Arma en remplissant son verre. Anastasia ne répondit pas, songeant qu'elle ne devait pas avoir l'air trop rayonnante, craignant que cela ne puisse mettre la puce à l'oreille de son mari. Et voilà qu'à cet instant, Macaire fit son entrée dans la cuisine en tonnant d'une voix furieuse « Ah, ce diable de Levovitch !» Anastasia crut défaillir. Ça y est, son mari savait tout. « Ce diable de Levovitch !» répéta Macaire. « Quoi ?» balbutia Anastasia. Macaire tenait en main l'édition du journal de la Tribune de Genève et la déplia devant sa femme. « Regarde ça, chouchou !» s'égosilla-t-il sur un ton qui oscillait entre agacement et admiration. À la une du journal, qui annonçait une grande interview du président de la République française, on pouvait voir une photo du président accompagné de Levovitch, prise la veille, alors qu'il faisait une promenade au bord du lac Léman à proximité des Nations unies. Macaire lut un extrait de l'article. « Les dirigeants du monde entier sont réunis depuis hier aux Nations unies pour la grande conférence sur les réfugiés. Aujourd'hui, le président de la République française doit prononcer un discours très attendu. Les promeneurs du parc de la Perle, du lac, ont d'ailleurs eu la surprise de le croiser hier, suivi de près par ses gardes du corps, alors qu'il se baladait en compagnie du banquier d'affaires bien connu à Genève, Lev Levovitch. Arma l'interrompit dans sa lecture.
« Jus d'orange, messieurs ?»«
Oui, merci. » Il posa le journal et attrapa une tranche de pain grillé qu'il beurra généreusement. « Quel type quand même, ce Levovitch » reprit-il. « Et vas-y que je me promène bras dessus, bras dessous avec le président de la République, et vas-y que je fais la une du journal. Et tu veux savoir le pire ? Il n'est pas prétentieux pour deux sous. Hier, il n'était pas au bureau, mais il n'a dit à personne qu'il était occupé aux Nations Unies. Il a fallu que Christina le traque jusqu'à ce qu'on découvre ce qu'il fabriquait. » Anastasia regarda, désappointée, ce mari qui vouait une admiration sans borne à l'homme qui le faisait cocu. Au fond, ils étaient, elle et lui, amoureux de la même personne. Mal à l'aise, elle s'efforça de changer de sujet. « Et ta soirée ? Tu es rentré tard, non ? » demanda-t-elle d'un ton faussement naïf. « Je suis rentré à 3h30 du matin, » répondit-il. « Je suis claqué. Qu'as-tu fabriqué jusqu'à 3h30 du matin ? Je ne peux rien te dire. Bon, si, à toi, je peux le dire. Figure-toi que hier, Signor Tarnogol m'a demandé de lui rendre un service, un truc très important. C'était le fameux point à régler dont je t'ai parlé au restaurant.
Quel genre de service ?
Demanda Anastasia, inquiète de ce que son mari avait pu faire pour infléchir la décision de Tarnogol. Trois fois rien. Figure-toi, je devais récupérer une lettre pour lui et la lui apporter ensuite.
Une lettre ? Tu n'es pas facteur, à ce que je sache.
Macaire lui lança un regard noir. Tu ne comprends rien. Tu vois, j'aurais mieux fait de ne rien te raconter. Une lettre très importante que Tarnogol ne pouvait pas recevoir directement. Il avait besoin d'un homme de confiance.
Il avait besoin d'un facteur, répéta Anastasia.
Un homme de confiance, s'agaça Macaire. Il s'agissait d'aller jusqu'à Bâle pour récupérer l'enveloppe, si tu veux tout savoir.
Tu as fait l'aller-retour à Bâle hier soir ? Je comprends maintenant pourquoi tu es rentré à une heure pareille.
Oh, c'est pas si loin quand on s'est roulé. J'ai récupéré la fameuse enveloppe vers 23h dans un grand hôtel de Bâle. Le temps de boire un petit café et de repartir, à 2h30, je la livrai à Tarnogol en main propre.
Figure-toi qu'il m'a reçu chez lui. Personne n'est jamais invité chez lui.
Magnifique hôtel particulier, rue Saint-Léger, en face du parc des Bastions. Le summum du chic. Il m'a traité avec le respect que je mérite. Accueilli comme un roi au cri de « Mon frère !» Mon frère, qu'il me dit, tu entends ça ? Il avait fait préparer pour moi un encas. Enfin, encas, façon de parler. Il fallait voir ça. De quoi nourrir tout un village d'affamés. Caviar d'Iran exceptionnel, saumon fumé sauvage d'Alaska comme tu n'en as jamais mangé, brioche toastée qui te fond dans la bouche, plateau de fromage, tarte fine aux fruits, mignardise. Ah, j'aurais voulu que tu vois ça. C'était quelque chose. Et puis, il a ouvert une bouteille de vodka Beluga pour célébrer une grande occasion. Il a dit avec son affreux accent « La Beluga, la vodka de la victoire !» On a passé un long moment ensemble à papoter et rire. La connivence totale. Et quand je suis parti, il m'a dit en anglais « Thank you, Mr. President. »
« Mr. President ?»
Eh oui, c'est bien moi qui vais être nommé samedi. J'ai pas perdu ma soirée.
Macaire contempla son épouse avec amour. Depuis quelque temps, quelque chose avait changé en elle. Son visage était devenu plus lumineux. Elle était plus gaie. Il la surprenait de très bonne humeur. Différente, quoi.
Heureuse, dirait-il.
Oui, il la rendait heureuse.
Il y avait eu des hauts et des bas, mais à présent, il savait y faire.
Il n'y avait qu'à la voir resplendissante.
Ce matin-là, Macaire, qui d'ordinaire consacrait un long moment au petit déjeuner, avala ses tartines en vitesse, visiblement pressé. « Au boulot !» déclara-t-il en se levant de table.
« Tu pars déjà à la banque ?» s'étonna Anastasia.
« Non, » répondit-il d'un ton mystérieux. « Je vais dans le boudoir. Je travaille sur un projet. » Elle eut l'air intriguée. Il fut satisfait de son effet. Elle avait pris pour un imbécile avec son histoire de facteur. Elle verrait bien qui il était en découvrant la vérité. Il songea qu'on le sous-estimait trop. Il en avait parfois souffert avant de se rendre compte que c'était sa force, au fond. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Il nota dans un coin de sa tête que ce proverbe pourrait faire un bon titre pour ses mémoires. Enfermé dans son boudoir, Macaire commença par admirer l'objet qu'il avait ramené de son passage chez Signor Tarnogol, un mouchoir en soie brodé « Signor Tarnogol, membre du conseil ». Il l'avait remarqué sur une table d'appoint et n'avait pas pu s'empêcher de le dérober.
Il avait trouvé à cet accessoire une note de grand chic. Il se ferait faire sur ce modèle des mouchoirs où l'on pourrait lire « Macaire Ebesner, président ». Il rangea le morceau de tissu au fond d'un tiroir d'où il retira une bouteille de jus de citron pressé. Il en versa une partie dans un bol en cuivre et y ajouta de l'eau pour obtenir de l'encre sympathique. Il sortit ensuite son cahier d'écriture du coffre-fort et s'installa au pupitre encombré de bibelots et reprit le fil de son récit. Mes différents comptes rendus, envoyés au Conseil fédéral, firent mouche. La place financière suisse, notre poumon économique, était menacée et il fallait impérativement la protéger. Si les pays européens prévoyaient des actions non seulement pour empêcher la fuite des capitaux vers la Suisse, mais aussi pour identifier les comptes suisses de certains de leurs ressortissants, alors il fallait, selon la formule consacrée, préparer la guerre pour assurer la paix. Le gouvernement suisse chargea ainsi les services de renseignement de mettre sur pied une opération de surveillance à grande échelle des ministères de l'économie des pays d'Europe et pouvoir anticiper d'éventuelles mesures de rétorsion contre la Suisse. Envoyer des agents de renseignement en pays amis et alliés, représentant toujours un exercice périlleux en termes d'image et de diplomatie, la P-30 fut envoyée en première ligne pour préparer le terrain. La division économique dont je faisais partie redoubla d'activité. Londres, Paris, Lisbonne, Vienne, Athènes, Munich, Milan, Madrid, Stockholm, toutes les grandes villes d'Europe devinrent nos cibles. Pour chacune d'elles, il fallait localiser les différents bâtiments administratifs concernés, comme les édifices ministériels ou le siège des autorités fiscales, et récolter pour chacun d'eux le plus d'informations possible. Accès, disposition des locaux, présence de caméras, éventuel contrôle à l'entrée. Il pouvait aussi s'agir de relever toutes les plaques des voitures entrant ou sortant des parkings destinés au personnel, afin de créer une base de données. Ou identifier les restaurants de quartier qui avaient les faveurs du personnel. Ce travail de fourmi, fastidieux et ingrat, était néanmoins indispensable pour ouvrir la voie aux agents de renseignement qui seraient envoyés ensuite sur place pour installer des dispositifs d'écoute, subtiliser ou détruire des documents, ou encore prendre contact avec des employés qui, par vénalité, accepteraient de nous procurer des informations. À chaque retour de mission, je recevais une invitation à l'opéra où je retrouvais Wagner pour lui remettre les rapports de synthèse de mes observations. Malheureusement, tous ces efforts allaient s'avérer inutiles. Notre pire ennemi se trouvait en réalité non pas en dehors de nos frontières, mais au cœur de notre pays. Nous allions être attaqués de l'intérieur, comme le montre un événement qui allait traumatiser toute notre institution bancaire. Un employé d'une grande banque zurichoise, pour se venger de son licenciement, était parti avec une liste de clients étrangers détenteurs de comptes cachés en Suisse, liste qu'il avait vendue aux fiscaux allemands et français. Au sein des banques, réputés pour leur discrétion et leur attachement au principe de secret bancaire quant à l'identité de leurs clients, ce fut un véritable coup de tonnerre. Pour les services de renseignement, c'était l'état d'alerte maximale. Cette trahison sans précédent risquait bien de susciter des vocations. Il était impératif de frapper un grand coup, s'assurer que ce n'était qu'un cas isolé et dissuader quiconque de vouloir suivre cet exemple. La P-30 fut chargée de découvrir si les administrations fiscales des grands pays d'Europe cherchait activement à acheter des renseignements auprès de banquiers suisses. C'est ainsi qu'après le décès de mon père, faisant valoir mon ressentiment d'héritier légitime dépossédé de la présidence, Wagner m'envoya dans différentes villes d'Europe pour infiltrer les arcanes du fisc. Pendant toute l'année qui s'écoula, je multipliai les allers-retours à Paris, Londres, Munich, Milan, Athènes. Le protocole était simple. Dans chacune de ces villes, Wagner m'avait introduit auprès d'un avocat qui travaillait pour nous. Celui-ci me mettait en contact avec un responsable local de l'administration fiscale que je rencontrais dans un lieu discret et à qui je me présentais comme un repenti. Je leur brodais chaque fois la même histoire. « Mon père ne m'a pas nommé président, je veux me venger et je suis prêt à collaborer avec vous. » Ils pouvaient vérifier, tout était vrai et relayé par la presse. C'est en général ce qu'il faisait, et il me fixait ensuite, via l'avocat toujours par souci de discrétion absolue, un autre rendez-vous au cours duquel s'engageait une négociation grâce à laquelle je leur soutirais de précieuses informations sur leur méthode. Combien étaient-ils prêts à payer pour la liste de mes clients? Qu'allaient-ils en faire? Quelle garantie de protection? Étaient-ils prêts à m'accorder un permis de séjour puisque je ne pourrais plus rester en Suisse? En général, lorsque je disposais d'assez d'informations, j'exigeais de leur part un engagement par écrit, ce qu'ils refusaient toujours, et je pouvais ainsi rompre la négociation sans éveiller les soupçons. Au moment de terminer ma carrière au sein de la P30, je dois le dire ici, j'ai été fier et heureux de servir mon pays. J'ai l'impression d'avoir vécu. La seule trace qu'il me reste de ces années passionnantes est une lettre transmise il y a quelques années par Wagner et signée de la main du président de la Confédération suisse. 3 lignes manuscrites que je joins à ce texte. Cher Macaire, puissent ces quelques mots vous témoigner de notre reconnaissance éternelle pour votre engagement sans faille en faveur de votre pays. Bien amicalement, Beyat Wunder, président de la Confédération helvétique. Reconnaissance éternelle, dit Macaire à haute voix en relisant la lettre qu'il gardait glissée entre les pages de son cahier. Ah, si son père avait su de quelle trempe il était! Macaire regarda avec nostalgie la photo de son père posée sur le pupitre face à lui. « Ton fils, papa, » dit-il à son père en papier glacé, « n'est pas n'importe qui. » De son boudoir, Macaire put entendre le téléphone de la maison sonner et les pas précipités d'Arma qui accourait pour répondre. « Demeure et Besner, bonjour !» Puis à nouveau des pas précipités mais qui prenaient la direction du boudoir et, soudain, des coups contre la porte de sa pièce. « Monsieur !» s'écria Arma à travers la cloison. « Pardon de déranger, mais appel urgent !» Macaire n'ouvrit la porte à Arma qu'après avoir pris soin de ranger son cahier dans le coffre. « Qui est-ce » demanda-t-il. « C'est la banque !» Il s'en alla prendre la communication depuis l'appareil du hall d'entrée. À l'autre bout du fil, il trouva Christina, sa secrétaire.
« Monsieur Besner !»
s'excusa-t-elle d'emblée.
« Je n'arrivais pas à vous joindre sur votre portable, alors je me suis permis d'appeler chez vous. »
Percevant de la panique dans la voix de sa collaboratrice, Macaire s'empressa de la rassurer. « Vous avez bien fait, Christina. Que se passe-t-il ? »
« Il faut que vous veniez immédiatement à la banque, »
dit Christina. « Mais que se passe-t-il enfin ?»«
Venez !»
supplia-t-elle.
« Il y a Monsieur Tarnogol dans votre bureau. Il est hors de lui et vous traite de tous les noms. Je ne sais pas de quoi il parle, mais ça a l'air très grave. »